7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Une joie, une souffrance, etc. Nicolas Martin, bonjour, c'est votre radiographie du coronavirus.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes.
Vous voulez tout d'abord évoquer la question des réinfections. Après deux cas préoccupants, vous vous demandez aujourd'hui s'il est possible de se réinfecter au Covid.
Oui Guillaume, on avait déjà évoqué cette question, notamment le fait qu'il y avait quelques cas sporadiques dans la littérature scientifique. En tout et pour tout, 5 cas étaient identifiés de façon formelle. Mais là, il y a 2 cas qui ont été publiés coup sur coup, ce qui fait qu'on se repose la question de ces réinfections. Alors quels sont ces cas? Le premier cas, c'est celui d'une Néerlandaise de 89 ans qui a été publiée dans Clinical Infectious Disease le 9 octobre et qui est décédée suite à ces réinfections, ce qui rend évidemment le cas encore plus préoccupant. Que sait-on? On sait que lors de sa primo-infection, elle a été admise à l'hôpital avec de la fièvre, de la toux, un test PCR positif. Elle est restée 5 jours à l'hôpital sans réanimation et en est ressortie. 59 jours plus tard, donc quasiment 2 mois, elle souffre à nouveau de fièvre, de toux, d'une dyspnée, c'est-à-dire d'une difficulté à respirer. Elle est réadmise, son test PCR est positif et elle va décéder 8 jours plus tard. Mais ce qu'il faut préciser sur ce cas, c'est que cette patiente souffrait d'un cancer, précisément d'une maladie de Waldenström. Elle était donc sous chimiothérapie, donc évidemment immunodéprimée, ce qui est un critère évidemment important pour comprendre ce cas, même si cette immunodépression n'explique pas tout. L'autre élément, c'est que elle n'a pas eu de test PCR négatif entre les deux hospitalisations, ce qui pourrait laisser penser qu'il ne s'agit pas d'une réinfection, mais d'une rechute. Or, et là c'est important, on a testé le génome viral qu'il avait infecté entre la première et la deuxième infection, et ce génome viral différait de 10 nucléotides, c'est-à-dire 10 bases, vous savez, le SARS-CoV-2 en compte 30 000, ce qui veut dire qu'elle a été infectée par deux, non pas souches, mais deux clades, deux variants différents. Et donc, mais bien qu'on est en présence manifestement d'une réinfection, on est tout de même dans un cas particulier lié à cette comorbidité qui était liée à son cancer et donc très importante.
Récent, Nicolas, le deuxième cas récent.
Alors le deuxième cas, il s'agit d'un patient américain de 25 ans. L'étude a été publiée dans The Lancet en date du 13 octobre. Lui a été testé positif 48 jours après sa primo-infection. Lui a subi un test PCR négatif entre les deux infections, donc a priori il a été guéri de la première. Mais pareil, quand on teste le matériel génétique des deux virus en infection 1 et en infection 2, il y a deux variants. Et donc, comme pour la patiente néerlandaise par ailleurs, sa deuxième infection est plus sévère que la première, même si lui, heureusement, a pu guérir. En tout, donc, 5 cas déjà avérés, reconnus par la littérature scientifique. Avec ceux-là, on est à 7, mais possiblement, vraisemblablement, une 50aine de cas suspects en plus.
Alors, quelles sont les hypothèses qui peuvent expliquer ces réinfections, Nicolas ?
Alors, il faut bien préciser que ce sont, à l'heure actuelle, des hypothèses. Ce ne sont pas les conclusions d'études qui auraient été publiées dans des revues à comité de lecture, mais des hypothèses partagées par l'ensemble des infectiologues. La première chose, c'est que ce sont précisément ces mutations virales. Je l'ai bien dit, ce sont donc des clades, des variants. On ne parle pas de souches différentes, ce sont des légères mutations. Le virus mute, on le sait, on en avait parlé ici, c'est-à-dire des nucléotides changent. Lors de la réplication, il y a ces petits nucléotides qui peuvent varier. On estime que c'est toutes petites mutations qui ne changent pas ni l'infectiosité, ni la virulence du virus. On estime que ces petites mutations ont lieu en moyenne 2 fois par mois. Il faut bien préciser que ces mutations-là, même si elles ne changent pas la nature du virus ou sa façon de nous infecter, elles peuvent néanmoins peut-être tromper le système immunitaire et modifier légèrement sa capacité à reconnaître le deuxième virus qui va se présenter dans le corps du patient réinfecté. La deuxième hypothèse, c'est celle de l'inoculum. Vous savez, c'est la quantité de virus qu'il faut ingérer pour déclarer la maladie. On peut supposer que dans ces cas de réinfection, la deuxième infection est liée à au fait d'avoir ingéré un inoculum plus important qui déborderait, c'est-à-dire d'avoir plus de virus à l'intérieur du corps, ce qui déborderait en quelque sorte le système immunitaire. Et la troisième, qui est la plus probable de ces hypothèses, c'est la susceptibilité individuelle. Nous avons interrogé Morgan Bumsell, qui est immunologue, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut Cochin, et ce qu'elle nous dit, c'est que compte tenu du tout petit nombre de cas, on parle donc de 7 cas, d'une 50aine de cas suspects. Si on voit large et qu'on rate, disons, pas mal de cas de réinfection, mettons 100 à 200, même 1000, sur 40 millions de personnes infectées, c'est un événement rarissime. Et c'est vraiment important de le souligner. Ce qui plaide donc pour des cas particuliers qui pourraient être liés à une susceptibilité génétique particulière. Mais il manque aujourd'hui d'études pour qualifier et quantifier exactement ces réinfections.
Ce qui pose donc, Nicolas, la question de la durée de l'immunité.
Oui, et cette question de la durée de l'immunité, c'est une vaste question qui va, pour beaucoup, déterminer l'efficacité de la couverture vaccinale. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de façon certaine? C'est que on déclenche, quand on est infecté, quelle que soit la nature et la puissance des symptômes, une réponse immunitaire, c'est-à-dire des anticorps qui nous protègent contre le SARS-CoV-2. On a un pic d'anticorps qui arrive au bout de 3 semaines, et ces anticorps, ils sont stables dans le corps jusqu'à 4 mois après le diagnostic. L'activité neutralisante des anticorps fonctionne donc, elle est attestée, puis elle va se mettre à diminuer et elle diminue a priori très fortement au bout du 5e mois, nous confirme Morgan Bumsell. L'immunité est donc, on sait aussi qu'elle est plus forte a priori quand les symptômes sont plus sévères par rapport aux personnes qui sont asymptomatiques. Les études montrent également une grande variabilité en fonction des patients. Il y a des patients qui ont naturellement, qui vont produire plus d'anticorps que d'autres. Et là aussi, on pense que c'est une question de susceptibilité individuelle et de configuration génétique en quelque sorte. Mais ça n'est pas parce que le titre d'anticorps, la quantité d'anticorps dans le corps chute, qu'on n'a plus aucune immunité et qu'on se retrouve complètement nu face au virus. Parce qu'il y a une autre type d'immunité qui s'appelle l'immunité cellulaire, les lymphocytes T mémoire, qui peut prendre le relais et protéger lorsqu'on n'a plus d'anticorps en circulation dans le sang. Mais le problème, c'est que cette immunité cellulaire, sa durée et l'ampleur de la réponse qu'elle suscite sont encore assez mal connues et là aussi demandent plus d'études.
Bon, et on termine, Nicolas, avec la fake news de la semaine. L'utilisation prolongée du masque provoquerait un manque d'oxygène.
Oui, et un manque d'oxygène et même, si on en écoute les personnes qui défendent cette théorie, une intoxication au CO2, au dioxyde de carbone, que nous relâchons naturellement en respirant, selon un billet qui a été publié cette semaine dans France Soir. Et cette intoxication pourrait même mettre en péril le développement cérébral des 14-25 ans. Alors, pour bien comprendre ça, il faut revenir à de la biologie moléculaire de base et à de la chimie. Les masques arrêtent des particules entre 1 et 10 micromètres, ce sont les gouttelettes. C'est 10-6, c'est-à-dire 0,6 après la virgule. Une molécule de dioxygène et de CO2, ce qu'on respire, mesure entre 346 et 330 picomètres. C'est 10-12, c'est 1000 fois plus petit. Vous voyez la différence entre 1 mètre et 1 millimètre, c'est ce rapport-là, ou entre 1 mètre et 1 kilomètre. Donc imaginez que les molécules d'air ne passent pas est complètement absurde. Néanmoins, il y a tout de même une étude qui a été faite pour tester cette hypothèse, avec 15 personnes en bonne santé et 15 vétérans qui souffraient de maladies respiratoires, avec masque et sans masque. Ce constat de cette étude, c'est que chez les personnes saines, il y a une légère augmentation du rythme cardiaque à l'effort avec le masque, qui est certainement dû à un léger sentiment de claustrophobie ou anxieux, mais il y a en tout cas aucune modification des échanges gazeux pendant une heure d'activité modérée. Donc, personne ne dit que porter le masque, c'est agréable. C'est vrai que ça peut être assez désagréable au long terme. En revanche, aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est nuisible pour la santé ou pour l'oxygénation du cerveau.